Bonjour à tous. En ce début de rencontre, je souhaite vous rappeler le thème « Les religions au féminin, un combat, un engagement, une sororité ». Alors, quand Patricia m'a demandé de m'associer à cette rencontre et de l'aider à la préparer, j'ai été extrêmement enthousiaste. Enthousiaste parce qu'enfin, on considère le fait religieux comme un fait de société et que pouvoir en traiter, en parler, échanger dans un cadre public, laïque donc, me paraît tout à fait intéressant. En effet, la laïcité, on le sait, a engendré tellement de débats et est encore l'objet de tant de controverses. Au départ, on sait qu'elle s'est imposée, avec la loi de 1905, contre les religions en place et que donc elle considérait que les religions étaient réservées à l'espace privé. Les choses ont évolué. Si les pratiques religieuses sont toujours réservées à la sphère privée, le fait religieux est un fait de société. Et donc pouvoir en parler dans un cadre laïque est particulièrement réjouissant. Alors je voudrais à ce propos, vous relire la définition qu'a donnée Delphine Horviller de la laïcité, et je crois qu'elle est tout à fait intéressante et que nous sommes là dans le cœur du sujet. Alors, je vous la lis. La laïcité française n'oppose pas la loi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec tout cela. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide, ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il y reste toujours une place pour une croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. À sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Nous voilà tout à fait dans le sujet de notre rencontre, dont l'objectif est de mieux se connaître. Quand on parle de religion, il y a normalement deux acceptions sur l'étymologie de ce terme. La première vient de relégué, relire, qui veut dire relire et qui renvoie au texte, à l'interprétation du texte. Et je crois que nous verrons à quel point c'est important. Ici dans les propos qui vont être échangés. La deuxième source étymologique est religare, relier. Nous sommes bien là-dedans, dans le cadre d'une fraternité, inscrite donc sur le fronton de nos mairies, et là donc Journée internationale des droits des femmes. Quatre femmes sont là pour parler de leur façon d'être et de leur engagement de leur religion. Nous y préférerons le terme de sororité. Donc ce débat doit se faire en dehors de toute polémique, dans le respect des uns et des autres. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne rencontre.
Alors moi je commence en vous disant Shabbat Shalom. Parce qu'à cette heure-ci, un vendredi soir, les Juifs y sont à la synagogue pour célébrer l'entrée dans le Shabbat et c'est ainsi qu'ils s'apostrophent. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom, c'est la paix, c'est aussi la plénitude, mais c'est aussi salut dans la rue en Israël. Le Shabbat qui commence à la tombée de la nuit, comme tous les jours de notre calendrier, c'est le jour du repos, le septième jour où Dieu se repose après la création, celui où il est interdit de travailler, où l'on doit se réunir pour prier, pour étudier les textes, pour les transmettre à ses enfants, pour se réjouir d'être ensemble en festoyant et honorer sa moitié. C'est le jour différent, le jour du contraste avec les autres jours de la semaine. Autant vous dire que si je suis avec vous ce soir, c'est que je suis un peu atypique. Je me nomme Agnès Rothenberg, je suis née d'un couple mixte, mère athée, père juif, et j'ai eu des enfants avec un homme athée. Ça commence mal. Parce que le judaïsme se transmet par la mère, et que dans un souci de transmission, on doit épouser un membre de la communauté juive. Tout au moins chez les orthodoxes. Parce que même si on réduit le judaïsme à la religion, en fait, il y a quand même plusieurs judaïsmes. Et je vais vous donner quelques grandes lignes pour y voir clair. Les ultra-orthodoxes, ce sont les juifs Apeyot, Redingot, Shtreimel, Rabbi Jacob. Ils prônent une pratique très traditionnelle, issue du chassidisme, qui est un mouvement conservateur qui lutte contre l'assimilation au XVIIIe et XIXe siècle des Juifs dans l'Europe, en particulier l'Europe de l'Est. Ils célèbrent la joie avec des contes, avec des chants, avec des danses. Et dans cette lignée, le rabbin Étienne Kerber crée le Shabbat Rock. On chante les psaumes sur des airs de rock. Voilà. On peut lire son livre sur la joie dans le chassidisme qui s'appelle « Chercher l'étincelle ». Les orthodoxes. Les orthodoxes sont majoritaires en France, c'est ceux que vous connaissez. Ils ont une pratique traditionnelle. Dans les deux courants, ultra-orthodoxe et orthodoxe, les femmes ont une partie de la synagogue qui leur est réservée et souvent c'est assez loin de la tribune. D'ailleurs, elles sont en fait plutôt invitées à se consacrer aux travaux domestiques pour que leurs maris, eux, qui ont l'obligation, alors que les femmes n'ont pas d'obligation, les maris puissent se consacrer à la prière et à l'éducation religieuse des enfants. La parole du rabbin est très prescriptive et la communauté veille à l'application des règles. En somme, ces deux courants sont des courants patriarcaux. Les juifs étaient dans des sociétés patriarcales, des petites minorités, ils n'ont pas fait différemment des autres. Mais les femmes orthodoxes aujourd'hui disent bien que ce sont les traditions qui veulent ces rôles très différenciés, pas les prescriptions bibliques. J'en reparlerai un petit peu. Les massorties prient hommes et femmes ensemble, mais sont très traditionnelles dans leur pratique. Les libéraux, donc on va du plus orthodoxe vers le plus libéral, les libéraux qui sont majoritaires dans le monde et en particulier parmi les juifs américains, prient aussi hommes et femmes ensemble. Ils ont modifié certains passages des prières, par exemple pour célébrer les matriarches, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, aux côtés des patriarches. Certains textes sont lus dans la langue du pays et non plus en hébreu, de telle sorte à en permettre une meilleure compréhension. Le rabbin explicite les recommandations liturgiques, mais chacun garde son libre arbitre. Les libéraux reconnaissent comme juifs les gens élevés dans un foyer juif, et pas nécessairement avec une mère juive. C'est pour ça que moi, je peux faire partie d'une synagogue libérale. Et aussi ceux qui suivent un parcours de conversion. Alors, il y a des parcours de conversion aussi chez les orthodoxes, mais voilà, il y en a un certain nombre chez les libéraux. Et les libéraux n'excluent pas les personnes LGBT. Enfin, j'ai découvert récemment qu'il existe quelques communautés de judaïsme humaniste en Australie et en Grande-Bretagne. Des gens d'origine et d'éducation juive qui ne croient pas en Dieu, mais qui veulent garder une pratique et une spiritualité. Et ils modifient les textes en conséquence. Alors, première question en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Y a-t-il des femmes rabbins? Alors, vous avez déjà eu un petit bout de réponse, puisque Nelly a cité Delphine Horviller. Y en a, mais c'est pas si vieux que ça. En 1935, une première femme est ordonnée rabbin, Regina Jonas. Elle est née à Berlin et elle meurt à Auschwitz en 1944. Il faut attendre 1972 pour qu'une nouvelle femme soit ordonnée rabbin aux États-Unis, qui s'appelle Sally Priestand. Je vais me recentrer sur la France. Quand j'étais adolescente, un soir, mon père rentre à la maison, très excité, et il nous dit « Vous savez quoi? La fille de mon copain, Maurice Bebb, elle part à Londres faire le rabbinat. » C'était un scoop. Effectivement, en 1990, Pauline Bebb devient la première femme rabbin de France. Et en 2022, elle crée l'école rabbinique de Paris avec d'autres rabbins. Notamment le rabbin Ferreira, première femme ordonnée à Paris même, en 2021, après des études à Londres. Et ayant fait une transition femme vers homme, c'est le premier rabbin trans de France. Si on se resserre encore sur Montpellier, la deuxième présidente de notre communauté libérale, Keilat Kedem, Sophie Bismuth, sera ordonnée d'ici peu, après 5 ans d'études à Paris, Berlin et Jérusalem. Delphine Horviller, qui a déjà été citée, qui a une parole très claire, que certains d'entre vous ont sans doute déjà entendu, vient régulièrement à Montpellier pour des ateliers d'études qui sont ouverts à tous et qui sont en général accueillis au temple protestant, qu'on remercie. Elle dit « Les femmes interviennent et changent l'histoire. L'accès au savoir donne l'accès au pouvoir. » Il y a aujourd'hui des femmes rabbins aussi chez les Massortis et les orthodoxes qui tentent de faire bouger les lignes. Ainsi, en juin dernier, Myriam Ackermann-Sommer est ordonnée rabbin moderne orthodoxe après des études à New York et avec son mari, elle fonde une synagogue et un institut de théologie qui est dédié aux femmes, qui s'appelle Kol El. Alors, on reparlera de la langue un petit peu plus tard, je vous explique. Kol El, qu'est-ce que ça veut dire ? Kol, c'est la voix parlée. Et elle l'écrit E-2-L-E-S, donc c'est la voix des femmes. Mais en hébreu, elle, c'est aussi un des noms de Dieu, donc c'est aussi la voix de Dieu. Voilà. Et on aime bien ce genre de polysémie avec l'hébreu. Enfin, dans mes recherches, j'ai aussi découvert Hermeline Vicaire, qui est sculptrice sur bois et qui est la première femme scribe certifiée en 2021 pour écrire les textes sacrés dans les règles de l'art à la plume d'oie sur parchemin. Voilà, j'aimerais maintenant vous parler des quatre notions qui, moi, me semblent essentielles dans le judaïsme et à travers ça de la place des femmes et qui m'enrichissent à travers le judaïsme. La transmission. D'une génération à l'autre, en hébreu, les dor vador, mes enfants qui sont très fans de Star Wars, ça les fait toujours rire. Bien sûr, la transmission se fait à la synagogue par l'étude et en particulier dans les apprentissages spécifiques pour devenir un adulte au moment de la bar ou bat mitzvah à 12-13 ans, qui est l'équivalent de la communion chrétienne pour les adolescents. Mais le judaïsme est aussi très imprégné par la symbolique des gestes et la symbolique des objets. Ainsi, dès la petite enfance, dans un foyer juif, l'enfant s'imprègne des gestes et des prières qui les accompagnent. Et si la mère est en charge des enfants dans les courants traditionnels, bah, c'est elle qui transmet et laisse la première trace de religion chez l'enfant. L'allumage des bougies du Shabbat ou l'allumage des bougies de Hanouka, la préparation alimentaire qui respecte les règles de séparation viande et laitage, la préparation des brioches tressées du Shabbat et des gâteaux de Pourim, j'en reparlerai, et la prière sur la première fois qui est une prière de gratitude sur la première fois qu'on mange un aliment dans l'année ou qu'on fait quelque chose, que moi j'aime beaucoup. Deuxième notion, le collectif et la responsabilité. À l'époque romaine, le deuxième temple de Jérusalem est détruit. Il n'y a plus de sacrifice au temple et de nouvelles pratiques se font jour. En particulier, étudier les textes sacrés et prier en minyan. Le minyan, c'est 10 juifs nécessaires pour la prière et en particulier pour ouvrir le rouleau de la Torah qu'on ne peut pas ouvrir si on n'est pas 10 juifs. 10 hommes chez les orthodoxes, 10 hommes et femmes chez les libéraux. Dans une synagogue libérale, je compte dans le minyan et ma fille qui a fait sa bat mitzvah aussi. Et c'est important pour moi. Les prières quotidiennes sont individuelles, mais celles du Shabbat et des autres jours de fête, celles des célébrations autour de la naissance, de la bar et bat mitzvah, du mariage, du décès, sont des prières collectives. Il en est de même pour la responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. À Kippour, le jour qui est nommé en français le jour du grand pardon, mais le Rav Florian Chinsky dit le jour du grand bilan, je trouve que c'est plus intéressant. On jeûne et on prie pendant 25 heures. On étudie ses fautes, on évalue ses fautes, mais on évalue aussi ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait qui a contribué aux fautes des autres. Notre interdépendance est ainsi un fil rouge. La tzedaka, littéralement la sagesse, en pratique l'entraide, prescrit une solidarité dans la communauté. Par exemple, pendant les 7 jours du deuil, les voisins prennent en charge l'intendance quotidienne des endeuillés, la nourriture, les courses, le ménage, etc. Et c'est probablement un rôle essentiellement féminin, en tout cas jusqu'ici. Je pense qu'on peut aussi comprendre comme une interdépendance la complémentarité des rôles hommes-femmes chez les plus orthodoxes. Enfin, Dieu a créé un monde qu'il nous revient d'entretenir, d'améliorer par ce qu'on appelle la réparation du monde, le tikkun olam. C'est une des bases de l'esprit d'entreprise chez les juifs, agir pour améliorer le monde. Et savez-vous qui a initié la journée de la femme en 1909 à New York ? Teresa Serber, une jeune réfugiée juive à 17 ans venue d'Ukraine, militante socialiste et féministe. La troisième notion, c'est l'étude. Étude de la langue. Mon père m'a transmis peu de choses sur la religion, elle-même. En revanche, dès que j'ai su lire en français, j'ai appris l'hébreu. Lire et écrire dans une autre écriture, de droite à gauche, avec des voyelles facultatives, voilà qui forge une bonne plasticité cérébrale. De la même façon, appliquer les règles du pays où on vit et celles d'une religion minoritaire obligent à comprendre très tôt la pluralité des points de vue et à les articuler. Et les deux sont importants et débrouillez-vous avec. L'étude permet aussi de découvrir la Torah, ses commentaires et surtout de s'interroger sur ce que ces textes anciens, parfois difficiles à comprendre, parfois choquants, nous disent de nos problèmes actuels. On dit que les Juifs sont le peuple du livre, mais la Bible n'est pas un livre, c'est une véritable bibliothèque avec 5 livres dans le rouleau, les commentaires, les ajouts, des traités juridiques, prophétiques, poétiques, etc. On comprend ainsi qu'en fait le texte doit être travaillé, interprété, questionné à plusieurs, jusqu'à aboutir à cette blague, s'il y a 2 rabbins, il y a 3 avis. Alors je vais écourter un petit peu. En revenant à l'humour juif, je pense que cette prise de distance c'est aussi ce qui permet l'humour juif. La personne qui racontait le plus de blagues juives dans mon enfance avait perdu un de ses frères dans la Shoah, mais ni son sens critique, ni son humour. Ce qui nous amène au dernier thème, persécution et exil. Les récits bibliques en sont émaillés, vous le savez. Malheureusement, les récits historiques aussi, même s'ils ne sont pas strictement superposables. Pour moi, les persécutions des Juifs traduisent le développement dans une société d'une intolérance à l'altérité. Le Juif étant l'autre par excellence, il est le premier à souffrir et il alerte sur l'avenir. Il suffit de se souvenir de l'Inquisition et de la Shoah pour savoir comment ça se poursuit. Alors je voudrais illustrer avec 2 histoires de Sarah la dimension de l'exil. La première, c'est la matriarche de la Bible que vous connaissez, qui quitte le pays des idoles avec son mari Abraham, qui, lui, prône un Dieu unique et non représentable. Le récit commence par « Lech Lecha », ce qui veut dire littéralement « va vers toi ». Comme Abraham, elle va changer de nom, de Sarai, elle devient Sarah, et on peut ainsi voir l'exil comme une transformation-révélation de soi, ce qui, d'ailleurs, motive de nombreux jeunes à explorer le monde aujourd'hui, et c'est aussi un motif dans le film « Va, vie et deviens », que certains d'entre vous ont lu et que sinon je vous invite à découvrir. En second, l'image d'une autre Sarah Schenkman, mon arrière-grand-mère, née à Saint-Pétersbourg, qui fuit les pogroms avec son mari, arrive en 1903 dans la Palestine ottomane, sous contrôle ottoman, enceinte de ma grand-mère. Avec la tuberculose, elle devient veuve avant même d'accoucher. Elle choisit de rejoindre la communauté juive du Caire où elle se remarie. Mon père y naît pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, il apprend le yiddish à la maison, l'hébreu à la synagogue, l'arabe littéraire, le français et l'anglais au lycée français du Caire. En 1952, Nasser arrive au pouvoir. Après une vague d'actes antisémites, les Juifs sont contraints de fuir. Sarah a un passeport où il est précisé « apatride ». Elle finira ses jours à Paris auprès de mon père. Pour finir, la persécution est aussi au cœur de la fête actuelle de Pourim. C'est le carnaval, on va dire, des Juifs, puisque c'est une fête déguisée, bruyante. C'est l'histoire d'Esther qui sauve le peuple juif en révélant à son mari, le roi Assuérus, la traîtrise et la malveillance de son ministre Aman, qui veut exterminer les Juifs. C'est une leçon de courage, toujours tout tenter pour se sauver. Parce qu'elle risque quand même sa tête, en révélant ça à son mari, le roi. C'est une fête où on mange des petits gâteaux en forme d'oreilles d'Aman. Voilà. Plus proche de nous, les livres « Les déracinés » de Catherine Bardon, « La femme qui en savait trop » sur Eddy Lamarre de Marie-Bénédicte, le film « La femme au tableau » vous emporteront dans des histoires vraies et extraordinaires d'exil pour échapper à l'Autriche nazie. En conclusion, je vous invite à poursuivre votre découverte du judaïsme. On a préparé une petite bibliographie, en particulier à travers les romans de Marek Alter et les livres de nos femmes rabbins. Je vous remercie. Shabbat shalom.
Voilà, donc on va prendre un temps maintenant, merci à chacune d'entre vous, pour interagir et donc voir un petit peu quelle réaction suscite en vous, quelle question suscite en vous, chacune d'entre vous, l'intervention faite par les 3 autres. Est-ce que quelqu'un a... peut intervenir Non, c'est encore trop chaud. Je donnerai le micro
à quelqu'un pour que la question soit entendue et après, captée.
Après, voilà. Donc, moi, ce que je peux dire de ce que j'en ai retenu dans l'ensemble, c'est que la grille d'analyse, la grille féministe d'analyse n'est pas adaptée, n'est plus adaptée au texte, à la lecture des textes. Hein. Je crois que ça a été dit clairement ou effleuré par certains d'entre vous. L'étude de ces textes ne résiste, enfin, la place des femmes dans ces textes doit être contextualisée, et donc, comme tous les textes, l'analyse historico-critique est très importante. Hein. Elle se situe, c'est sûr que la place des femmes dans la Bible et au 8e siècle, dans les sociétés de l'époque ottomane, on la connaît, on sait qu'on doit relativiser ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît important aussi, c'est la question de l'altérité de l'autre. Cette question-là était dans chacune de vos interventions. Marie-Reine s'y est particulièrement attardée, mais elle était dans chacune de vos interventions. Voilà, ça, ce sont des points qui me paraissent importants. Donc, je voudrais aussi re-questionner, Marie-Reine, tu l'avais fait quand nous avons travaillé avant, le titre, on a dit « Les religions, un engagement, un combat, une sororité ». Un gros mot, hein, sororité. Mais intéressant. Joël l'a proposé, intéressant. C'est donc la façon inclusive de parler de la fraternité qui est au fronton de nos mairies et qui est affichée. Et donc, je reviens là-dessus, hein, sur la laïcité et donc la sororité, la fraternité. Voilà, donc, je voudrais re-questionner, comme tu l'as fait, Marie-Reine, quand on a préparé, la question du combat. Tu as dit que tu récusais cette question-là. Joël, tu veux intervenir ?
Oui, je veux bien intervenir parce que je suis à l'origine de ces trois mots, le combat, l'engagement et la sororité, quand on a fait un petit partage avant la réunion. Alors, le combat, c'est pas un combat contre, c'est un combat pour. C'est un combat pour trouver la place respective de l'homme, de la femme, justement dans cette relation de respect, d'amour, d'affection, d'altérité et non de pouvoir. Hein, c'est effectivement peut-être que le mot combat est un peu violent, mais les femmes ont vraiment combattu au XIXe siècle pour avoir les mêmes droits, la même dignité que les hommes. Elles ne voulaient pas l'égalité, c'est l'égalité de droits qu'elles voulaient. Et c'est comme ça que je le comprends dans notre République. Eh bien, dans les églises, ça a été à peu près pareil. Dans chaque confession, dans chaque religion, les femmes ont dû faire un grand nombre d'efforts pour trouver leur place et ne pas rester enfermées à la maison sous l'effet d'une culture patriarcale qui se répétait, qui se transmettait de siècle en siècle jusqu'à très peu de temps. Hein. Et je crois qu'on doit à la psychanalyste, par exemple, Françoise Dolto, ou à des femmes de nous avoir permis justement d'analyser tout ce qui se passait derrière cette notion de patriarcat et d'éviter de lutter contre les hommes. C'était pas du tout ça, pas du tout. C'était au contraire trouver avec eux une relation de fraternité, de sororité et de respect total.
Ça me fait penser lorsque j'ai pris mes fonctions au CHU de Montpellier. C'est vrai que c'était quelque chose pour la direction. C'est le CRCM à l'époque qui m'a désigné, qui m'a demandé de structurer l'aumônerie. J'ai commencé au CHU de Montpellier. Donc, je me suis présentée à la direction. Le directeur qui me regarde, il me dit, vous allez faire la prière pour un homme ? Vous allez assurer J'ai dit oui, pourquoi pas. Et il m'a posé pas mal de questions, le directeur. Je le regardais, j'ai dit oui, je peux assumer la prière, oui, je peux faire ci, oui, je peux faire ça. Une femme, elle a le droit, oui, oui, oui. Donc moi, j'ai commencé avec un prêtre à l'époque. Il y avait un prêtre et un pasteur. Ils étaient deux hommes. Et petit à petit, hein, c'était les années 2011, moi j'ai commencé en 2011, 2012, il y a eu la nomination de Jeanne Montbelli, qui est aumônier catholique, et puis après il y a eu le pasteur Corinna Thomas. Donc on s'est retrouvés trois drôles de dames pour au CHU de Montpellier, et je vous garantis que c'était quand même un changement au CHU, hein, parce que la direction qui s'est impliquée, où nous avons fait pas mal de travail en commun et tout, et c'était vraiment dans la fraternité, on a pu faire un projet de service commun avec toutes les parties communes et la spécificité de chaque culte. C'était un exploit. Aujourd'hui, la femme a sa place dans la société. Et c'est vrai que tout dépend des hommes qu'on a en face. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était très ouvert et qui, par mes expériences, parce que j'étais secrétaire de ce conseil régional du culte musulman, et moi, je travaillais en tant qu'aide-soignante depuis les années 95, donc en soins palliatifs. Donc, j'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'aumônerie dans les hôpitaux? Et il m'a dit, est-ce que tu veux t'en occuper? J'ai dit, ah oui, avec un grand plaisir. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me portait et que j'étais poussée parce que c'est eux qui m'ont nommé. Ils m'ont dit, vas-y, on te donne cette, voilà, parce qu'ils savaient que j'allais pouvoir. Et puis c'est quelque chose qui me portait à cœur. Donc j'étais encouragée. Aujourd'hui, la femme, moi j'encourage les femmes de prendre leur place. Parce que des fois, les femmes, elles hésitent toujours. Hein. Elles ont toujours devant les hommes. Et je suis consciente, hein, parce que le jour où j'étais nommée par la DGOS, par la Direction Générale de l'Offre de Soins, aumônier de la région Occitanie, ces mêmes hommes qui m'ont désignée, ils avaient quand même, parce qu'ils n'avaient plus le droit de voilà, c'est moi qui désignais, c'est moi qui mettais en place, et ça c'était autre chose, hein, ça a changé le donne. c'était plus les mêmes. Mais j'ai pris cette place et j'ai mené ce combat. À ce jour, j'ai des hommes et des femmes avec qui je travaille, qui reconnaissent ma place et que nous avons un grand respect entre nous, hommes et femmes. Et ça, vraiment, je me réjouis justement de cette avancée. Et c'est vraiment quelque chose qui n'était pas facile. Mais la personnalité. Moi, j'ai vécu, j'étais la troisième des filles. Hein, la troisième des filles. Et j'avais mon papa qui était tout le temps derrière. Hein, tout le temps derrière. Et puis, qui donnait la valeur à la femme. Parce que dans les récits, j'ai cité quelques récits dans le Coran, mais dans la Sunna, mais c'est le vécu aussi dans la société. Vous parlez de votre papa. C'est vrai que c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents de donner la valeur justement à leurs enfants. Et c'est tout dépend le vécu, l'éducation que nous avons pu avoir pour avoir justement cette confiance en soi pour aborder les sujets pour aller devant et puis travailler sur les thématiques. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons, il y a beaucoup de femmes, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, maintenant le CFCM et tout n'existe plus. Donc l'État a mis en place le FORIF, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Donc il y a des groupes de travail, des groupes qui sont, et il y a des femmes, il y a des hommes qui réfléchissent ensemble comment construire justement un islam ici en France. Et ça, je me réjouis, je fais partie justement de l'aumônerie et nous travaillons ensemble pour améliorer justement l'islam et la connaissance, parce qu'il y a beaucoup, si on arrive déjà, moi c'est vrai quand je regarde les textes, et ça je suis confrontée tout le temps avec mes aumôniers, parce qu'ils sont francophones. Moi qui j'ai la chance de lire la lecture, les livres sacrés en arabe ou n'importe quel livre en arabe, la traduction là, c'est chaotique. Chaotique, que ce soit dans les textes sacrés ou que ce soit les livres traditionnels. Hein. La traduction ne reflète pas le sens des versets. Et là, il y a un gros travail qui se fait. Et si on arrive justement à décortiquer ça, et on arrive un jour à avoir un texte correct, ça, on va avec la contextualisation, bien sûr. La contextualisation, parce que les livres, c'est vrai que c'est un récit, hein, c'est tout le Coran. Moi, on peut passer de. C'est une révélation. On peut passer de la guerre, on peut passer à l'éthique, on peut passer à l'alimentation, on peut passer à plein de sujets sur la fécondation, les thèmes scientifiques et tout. On peut trouver de tout, mais il faut que ça soit vraiment, que ça reflète aujourd'hui le contexte actuel. Et ça, c'est très important de le retravailler et de voir aussi, de se mettre à jour, même nous, parce que c'est vrai que pour nos enfants, pour la génération, il faut vraiment, à partir de ce qui existe, contextualiser par rapport à l'époque où on vit. Ça, c'est très important.
Est-ce que dans ce que vient de nous dire Fatia, qui est intéressant, ça fait aussi référence à ce que je disais au début, que le texte ne devienne pas un prétexte. Hein, les traductions, souvent, tu viens de l'expliquer. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Fatia, est-ce que vous souhaitez réagir l'une ou l'autre ?
Moi, je voudrais revenir sur la question que tu posais, sur les femmes. Je connais une théologienne qui travaille sur les représentations féminines des mystiques femmes et dans la représentation en images. Et ce qu'elle met en évidence, c'est une façon qu'une parole de femme n'est pas une parole d'homme, et que c'est ça qu'il faut. Qu'il faut permettre, c'est-à-dire que dès la Bible, même dans la culture patriarcale, il y a toujours eu des hommes qui ont écouté les femmes, qui les ont invitées à parler aussi, mais qui les ont écoutées, des femmes qui ont écouté des hommes, et qu'aujourd'hui, ça se produit. Je veux dire, il faut oser avec simplicité être là. Après, prendre les postes, oui, tant mieux. Moi, j'avoue que si j'ai pu faire des études de théologie, c'est bien parce que c'était devenu possible et que au départ, c'était inimaginable dans ma tête. Hein. Là, à l'hôpital, quand j'ai été nommée aumônier, les gens n'étaient pas habitués. Alors, il y avait une dame qui m'avait dit « Pour moi, vous ne vaudrez jamais un prêtre ». Mais ça a passé, c'est pas grave. Enfin, parce que finalement, au final, on est là. Et quand elle est revenue 5 ans plus tard, le prêtre, il y était plus, mais j'y étais encore. Donc, et on avait très, très bien travaillé avec ce prêtre, dans la différence à la fois homme et femme, parce qu'on parle pas pareil avec un homme comme avec une femme, et dans la différence qu'il était prêtre et moi pas. Enfin, et ça avait été quelque chose de finalement très heureux, parce qu'on avait beaucoup de respect et d'estime, et qu'on n'était pas coincé dans nos fonctions, quoi.
Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur cette question de l'interprétation des textes, hein, parce que je crois que, en tout cas moi, ça me réjouit d'entendre dans vos 4 discours aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que effectivement, la question du féminisme nous oblige à sortir d'une lecture littérale du texte, hein, et nous oblige à regarder le texte avec une lecture historico-critique, hein, qui est indispensable, et puis à réinterroger le texte. Quel est le sens du texte, hein, et je crois que ça, c'est essentiel. Dans ce livre qui est écrit par une imam, une pasteur et une rabbine, des femmes et des dieux, qui est écrit comme un dialogue entre elles, hein, sur plusieurs sujets, j'ai retenu une phrase que j'aime beaucoup et c'est l'imam qui l'a dit. Je suis souvent frappée de voir les gens utiliser le texte coranique comme s'il s'agissait de la notice d'un lave-linge. Je pense que c'est la même chose pour la Bible. Hein. C'est parfois utilisé comme la notice d'un lave-linge. Alors, en effet, Il y a dans la Bible certains aspects qui expliquent comment construire l'arche avec des mesures, etc. Comment faire la couture des robes des prêtres. Mais globalement, ça reste des textes qu'il est nécessaire de travailler, d'interpréter et d'interroger. Surtout d'interroger. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment une question importante et qui me paraît important de retenir. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la société. Tu disais, les religions, elles font partie de la société. Que fait la société avec les lois? Elle les réinterroge, elle les retravaille. Et on a bien vu dernièrement comment elle a retravaillé la question des questions et elle les a changées parce que ça correspond à l'évolution de la société. Et ça, je pense que c'est intéressant dans notre rapport aussi des religions.